L'atelier des médias, Ziad Malouf.
J'ai reçu il y a quelques jours un livre dont le thème m'a intrigué. Il est l'œuvre de deux chercheurs et enseignants qui travaillent sur les médias. Son titre, Émotions de journaliste. Sous-titre, sel et sens du métier. Un coup d'œil à la quatrième de couverture. Pourquoi le journalisme? Pourquoi choisit-on ce métier? Et comment agit-il sur celles et ceux qui l'exercent avec le temps? Ce livre prend à témoin deux extrêmes, des reporters de guerre et des présentateurs de journaux télévisés. Je poursuis naturellement la lecture et décide d'inviter l'un des auteurs pour en savoir plus sur ce travail. Bienvenue, vous écoutez l'atelier des médias, restez avec nous.
Dans les rues de Lisbonne, la peur est palpable. La population est terrée chez elle. Il semble que j'entends quelque chose comme une rumeur. Oui, des cris, des gens sur une place. Je vais m'approcher.
Ce qui se passe ici est assez inattendu, assez extraordinaire.
Bonjour Denis Rouellan.
Bonjour.
Vous êtes donc le co-auteur de ce livre, Émotions de journaliste. Peut-être pour planter le décor, vous pouvez m'expliquer ce qui vous a encouragé, pourquoi vous avez souhaité travailler sur ce thème qui est, on peut le dire, est quand même assez étrange, ou en tout cas c'est pas le premier qui vient à l'esprit quand on pense au journalisme.
Écoutez, avec Florence Lecam, qui est donc co-auteur et qui est professeur à l'Université libre de Bruxelles, on a une connaissance du journalisme, on a souvent fréquenté des journalistes, on s'est plutôt d'ailleurs intéressé aux organisations de journalistes et à la constitution
des syndicats.
Oui, aux syndicats et choses comme ça. Et puis, en fait, il y a quelque chose qui nous intéressait. On n'avait pas une prise très, très forte là-dessus. C'était, au fond, qu'est-ce qui attache un journaliste à son métier? C'est une question qu'on peut poser sur tous les métiers, hein, bien sûr. Mais au fond, celle-là, elle nous a intéressé. Et comme on a en plus des étudiants, très souvent, on les voit très enthousiastes. Et au fond, c'est plutôt l'attachement qui est la porte d'entrée. Et les émotions sont venues comme une réponse à cette question-là.
Les émotions, c'est-à-dire.
Alors,
parce que c'est un terme qui est finalement est relativement vague, on peut dire, ou pas?
Non, enfin, pour nous, on a essayé de dire qu'il ne s'agissait pas d'un état d'esprit ou d'un état d'âme, mais...
Pas assez... quelque chose de constant, quoi. C'est-à-dire,
voilà,
pas,
voilà.
Quand on est déprimé, ce n'est pas une émotion, voilà. C'est on est déprimé.
Voilà,
c'est quelque chose de fugace.
Voilà, c'est quelque chose de beaucoup plus rapide, beaucoup plus urgent, et qui disparaît généralement ou pas, parce qu'il y a une sorte d'expérience émotionnelle qui se met en place, c'est-à-dire que ce qu'on a ressenti une première fois, on en a fait quelque chose. Et éventuellement, on en refait quelque chose la fois suivante. Donc c'est ça, l'émotion, c'est un sentiment de joie, une impression de peur, un ressenti d'intérêt fort pour un sujet, une forme d'enthousiasme, voilà, c'est ça une émotion.
La première chose qui m'a intéressé et intrigué dans ce livre, c'est votre introduction qu'on peut presque dire hors sujet. Je ne sais pas si vous êtes d'accord.
Oui, relativement.
Parce qu'elle est axée sur deux personnages historiques, deux personnes, deux journalistes qui sont tous deux morts durant la guerre d'Espagne. Donc un homme, Louis Delapré, qui travaillait pour la presse de droite, l'équivalent de France Soir. Ça s'appelait à l'époque Paris Soir, je crois. Et Gerda Taro, qui elle était photographe. Donc Louis Delapré est mort en 1936, donc au début de la guerre d'Espagne, après 6 mois de couverture du conflit. Gerda Taro est morte en 1937. Et vous avez choisi de parler de l'émotion liée à la mort de ces deux jeunes figures du journalisme, et aussi à ce que raconte ce parcours, cette émotion, la manière dont elle a été mise en scène ou instrumentalisée par leurs journaux respectifs, de peut-être l'entrée du concept d'émotion dans ce métier.
Alors oui, c'est intéressant que vous le lisiez comme tel, parce que d'une certaine manière, on a voulu rester à distance de cette perception de l'émotion, c'est-à-dire l'émotion que les journalistes provoquent par leurs papiers, par leurs enquêtes, par leurs résultats, et aussi par leur vie. Et par contre, ce qu'on a été chercher dans ces deux vies-là, qui sont regardés un peu au microscope, comme ça on a essayé d'enquêter, de mieux comprendre, etc., c'est d'y trouver cette part émotionnelle, d'essayer de comprendre qu'est-ce qui les attachait, pourquoi ils sont allés sur ce conflit, dans cette guerre qui était extrêmement dure, meurtrière, quelles raisons plutôt personnelles, intimes et biographiques liées à leur carrière, la carrière qu'ils voulaient faire. Donc ça, ça nous apparaissait extrêmement important de comprendre qu'au fond, ces gens-là étaient en train de construire leur propre histoire. Et puis, à un moment donné, on est tombé sur des phrases qui signifiaient très clairement l'émotion. À un moment donné, Louis Delapré dit on n'est bien qu'au front. Il dit ça à Pierre Lazareff, il lui écrit on n'est bien que là.
Pierre Lazareff, qui était le directeur de publication ou son rédacteur en chef à Paris Soir.
Tout à fait. Et du coup, là, cette émergence, évidemment, on s'est dit il faut la prendre au sérieux. C'est-à-dire qu'il ne faut pas penser que c'est quelque chose qui est de secondaire, en fait.
Et vous parlez, donc je l'ai dit, mais c'est pour ça que je dis que c'est hors sujet, vous parlez longuement de la manière dont ont été vécus ces deux décès, de la manière dont Paris Soir, à l'époque, a fait 7 unes donc, sur la mort de son journaliste. Gerda Taro, il y a eu 6 unes dans le média pour lequel elle travaillait. Et du coup, l'émotion nationale aussi qu'ont suscité ces morts. Et c'était quelque chose de nouveau, parce que la guerre d'Espagne, c'était une des premières, peut-être, guerres modernes du journalisme. Il y a eu énormément de journalistes qui sont partis la couvrir, on le sait, des écrivains, etc. Et du coup aussi, peut-être une des premières fois que le décès de jeunes journalistes était perçu de telle manière et raconté d'une telle manière par la presse.
Et sans doute, est-ce la première fois d'une très longue séquence qui dure jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire que la mort d'un reporter constitue un événement, et même un événement national, puisqu'aujourd'hui, les cérémonies d'accueil des corps ou des otages à l'aéroport de Villacoublay, près de Paris, sont quasiment l'équivalent symbolique des cérémonies aux morts dans la cour des Invalides pour le retour des soldats ou des blessés. Donc il y a effectivement une émotion nationale très forte autour de la disparition des journalistes, bien évidemment.
Et ce que vous racontez également qui est frappant, ce sont les relations réelles de Louis Delapré avec sa direction, c'est-à-dire qu'il est présenté comme un héros au moment de sa mort, etc. Mais vous produisez des écrits qui ont été publiés par la suite où on montre qu'il était réellement à couteau tiré, parce qu'il avait, au fur et à mesure de sa couverture de la guerre d'Espagne, il s'était peut-être biaisé, ou en tout cas il racontait plus les violences contre le camp républicain, les bombardements, etc. Et que ça n'arrangeait pas vraiment son journal qui avait une position plutôt à droite.
Mais c'est sans doute là que les émotions commencent à intervenir. C'est-à-dire que chez Louis Delapré, ce qu'il va sentir lors du bombardement de Madrid, puisqu'il meurt au bout de 6 mois, et donc il ne verra que cette phase-là de l'expérience meurtrière de cette guerre, quand il est à Madrid, il ressent très profondément des émotions, et au fond, ces émotions, à la fois on peut dire qu'elles le submergent, et ça le met très en colère, parce qu'il reproche à son journal de s'intéresser beaucoup plus à la du roi d'Angleterre qui veut continuer à vivre avec sa maîtresse, et donc il préfère abandonner le trône. Or, Louis Delapré dit on accorde beaucoup trop d'importance à cela et pas assez aux enfants morts de Madrid. Mais à ce moment-là, on voit qu'il commence à mobiliser les émotions pour comme un analyseur. C'est-à-dire que ça n'est plus seulement l'analyse que nous on fait, selon laquelle finalement il est à Madrid parce qu'il aime bien être à Madrid, il aime bien être dans cette ambiance. C'est qu'il commence à se servir des émotions comme quelque chose qui lui permet de comprendre le monde dans lequel il est.
Ce que vous avez raconté de Louis Delapré m'a fait penser à un son, enfin à une image, une vidéo qu'on a déjà diffusée dans l'atelier. C'est un journal télévisé d'Antenne 2 à l'époque, aujourd'hui France 2, présenté par Bernard Langlois le 15 septembre 1982. On écoute.
Il était jeune, 34 ans. Il était intelligent et volontaire, ambitieux et inquiétant tout à la fois. Élu, voici 23 jours président de la République libanaise, il aura eu juste le temps de savourer l'ivresse de la victoire, mais pas celui d'accéder à la réalité du pouvoir. C'est dans 9 jours que Béchir Gemayel devait devenir officiellement président du Liban. Sa mort hier dans un attentat risque fort de rallumer très vite les feux mal éteints de la guerre civile. Malheureux pays. Elle n'était plus très jeune, 52 ans, elle était toujours belle dans sa maturité, de femme épanouie, passée sans transition de la célébrité sulfureuse d'Hollywood à celle respectable du Gotha mondain. Curieux destin que celui de Grace Kelly, actrice talentueuse, distinguée par un prince, qui lui offrit un jour sa main, sa couronne, et de partager son trône planté sur un caillou cossu dans un royaume d'opérette. Grace de Monaco est morte, elle aussi, des suites de ses blessures après un accident d'auto. Cela ne changera rien au destin de l'humanité. juste un deuil ordinaire, la peine ordinaire d'une famille célèbre qui nous était familière par la grâce des gazettes. Bonjour à tous. Voilà donc de quoi est faite d'abord l'actualité de ce jour, de ces deux morts de gens illustres qui n'ont certes pas le même poids sur les balances de l'histoire, mais qui offrent l'une et l'autre matière à réflexion.
Gemayel, c'était d'abord. Donc le début du journal télévisé. Le journal commençait littéralement comme ça, de Bernard Langlois en 1982. Alors outre le fait que c'est extrêmement bien écrit, que c'est pratiquement radiophonique, en fait qu'à l'époque la télé était très inspiré du style radiophonique, il y a une colère en fait qui est très forte dans ce texte, qu'on peut lire uniquement entre les lignes et qui s'adresse d'ailleurs à la direction éditoriale de son journal. On l'a manifestement obligé à parler de deux morts au même niveau et lui n'est pas d'accord, et donc il en parle au même niveau mais il le fait savoir, et ça m'a fait penser donc l'histoire de Louis Delapré qui n'est pas d'accord aussi avec la manière dont son journal traite les informations et met au même niveau des choses qu'il pense être futiles et des choses extrêmement importante, ça me fait penser à ce journal.
Oui, et on peut se dire qu'en fait, cette colère, elle naît à un moment précis, c'est-à-dire qu'au moment où effectivement on lui dit, ben voilà, il y a deux informations qui ont autant d'importance et on va les mettre à égalité. Et cette colère, en fait, lui permet de construire progressivement à la fois son raisonnement, son argumentation, cette façon extraordinaire de le présenter, donc de montrer toute la force du jugement qu'il a dessus, et donc de la valeur qu'il donne finalement à sa colère. C'est-à-dire que ce qu'on a essayé de faire dans cet ouvrage, c'est de partir aussi d'un philosophe, John Dewey, qui est d'envisager, comme il le fait, que au fond, les émotions que l'on ressent, cette colère de Bernard Langlois, qui est une colère qu'il va poursuivre par ailleurs dans sa carrière, dans d'autres espaces, eh bien cette colère, en fait, elle lui sert pour analyser ce qui est en train de se passer. Il ne va pas dire, voilà, il y a eu un mort et puis il y a eu un autre décès, et tout ça n'a pas d'importance de le mettre sur le même plan. Il est effectivement furieux, et ainsi il va donner un sens nouveau à ces deux disparitions. C'est-à-dire que tout le monde va comprendre qu'il est parfaitement ridicule, effectivement, de s'inquiéter autant des conséquences de la mort d'une personnalité certainement très médiatique et la mort d'un homme politique de premier plan dans une situation extrêmement complexe.
Je vous lis. Le stress, le trac, la peur, la colère, la joie, la fierté, le plaisir sont des émotions que ces journalistes, vous parlez encore de Louis Delapré et de Gerda Taro, je précise, ont éprouvées dans l'exercice de leur métier en Espagne. Le stress du temps qui court avant le bouclage, le trac lors d'une interaction complexe, la peur de l'environnement lors d'un reportage, la colère de constater l'impuissance du témoignage, la joie de vivre des expériences rares, la fierté du travail réalisé et de la reconnaissance professionnelle, le plaisir des relations sociales construites par la position particulière du journaliste.
Oui, ce qu'on a essayé de montrer à travers ce type de propos avec Laurence Lecam, c'est qu'il y a des intensités émotionnelles, il y a des pics de ressentis qui s'avèrent à la fois modulés, c'est-à-dire qu'ils sont modulés par la réalité des événements dans lesquels les journalistes travaillent, sur lesquels ils se penchent, mais qui sont en partie aussi modulés par les individus. C'est-à-dire que quand on a compris en fait la place de l'émotion, on s'est aperçu qu'au fond, on peut à la fois décrire l'émotion en disant il y a de la joie, il y a de la peur, il y a de la force, etc. Et on peut aussi comprendre qu'au fond, les journalistes agissent de manière à laisser advenir ces émotions, ces forces-là.
Alors, je m'appelle Stéphanie Schuller, je suis grand reporter au service international de RFI. Je suis non seulement d'origine allemande, mais carrément allemande. J'ai d'ailleurs commencé il y a presque 20 ans à la rédaction allemande et ça fait maintenant 11 ans que je travaille au service mondial en français, donc au service international en tant que grand reporter. Quand je pense aux émotions lors de reportages, la première chose à laquelle je pense, c'est probablement le reportage qui a suscité en moi le plus d'émotions, très certainement. C'était un reportage qui a duré, enfin une mission qui a duré presque 6 semaines en Haïti après le tremblement de terre en 2010. Je suis arrivée sur place 2 jours après la catastrophe. Vous arrivez dans un endroit entièrement détruit, avec 230 000 morts sous des décombres à 36 degrés à l'ombre. Je vous laisse déjà rien qu'à imaginer l'odeur, qui s'est évidemment empirée au fur et à mesure des journées, et une population, mais aussi l'ensemble des autres intervenants, que c'était nous les journalistes ou les organisations humanitaires qui arrivaient sur place ou qui étaient déjà sur place à l'époque, complètement sous le choc, il faut dire ça en fait. On était choqués, je crois, tous. Et on est restés dans cet état de choc, je pense, moi en tout cas, tout au long de ce reportage qui a duré 6 semaines. C'était des moments d'émotion très forts, puisque c'était une situation extrême et que, où que je posais mon micro, j'enregistrais des choses extrêmes. Alors, les émotions que ça suscite, ce sont des émotions d'effroi, des émotions de désarroi, d'avoir l'impression de... Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose d'ouvrir le micro ? Et je me souviens très bien d'une autre émotion que j'ai ressentie souvent lors de ce reportage, c'était un sentiment de honte. Et qui a largement, je pense, influé sur mon travail après cette mission, mais aussi sur la suite de cette mission, une fois que j'étais sur place, la honte face au travail des journalistes qui étaient sur place, puisqu'ils avaient vraiment l'air de vautours, quoi, qui tournaient autour de cadavres. C'était horrible. Et je vous donne un exemple, il y avait des gens qui arrivaient dans des hôpitaux de fortune et qui imposaient leur micro face à des mères en larmes qui étaient là avec leurs enfants qui venaient de se faire amputer et qui demandaient « Alors, madame, je sais pas quoi, Jocelyne, votre enfant de 3 ans vient de se faire amputer de 2 jambes, qu'est-ce que vous ressentez ?» Et j'ai eu honte de faire partir de cette profession. Et donc, ma quête pour les semaines qui ont suivi sur le terrain était de faire déjà différemment. Dans un tel moment, je crois qu'on essaye d'être le moins encombrant possible, d'être le plus discret possible. On est de toute façon dans l'empathie. On a l'impression de faire partie d'eux, de partager leurs douleurs, de partager leurs larmes, de partager leurs difficultés, de faire partie d'une sorte de communion dans la détresse, dans le désarroi, dans la panique. Et il est très difficile de transmettre ça à l'antenne. Comment être crédible dans un tel moment, si vous, en tout cas dans vos, ce qu'on appelle les micro-off, dans un reportage par exemple, vous ne devrez pas prendre un temps aussi paniqué, aussi triste, aussi faire quelque chose de neutre. Ce n'est pas du tout évident, puisque vous êtes vous-même dans l'émotion qui vous entoure et qui est un truc phénoménal. Et ça a été très difficile, et je pense que la chose la plus difficile était de repartir. Parce que une fois qu'on est dans ce moment de communion, en tout cas qu'on ressent nous, parce que c'est évidemment une fausse communion, puisque nous on a la chance de pouvoir repartir. Nous on se remet au chaud derrière, on a une maison qui est restée debout, on prend l'avion et on est dans un monde magnifique où il ne se passe rien, il n'y a pas de drame. Mais le drame, vous l'emportez avec vous quand même. Les histoires que vous avez entendues, les visages que vous avez vus, tout ce qui vous a entouré pendant 6 semaines, vous l'emportez avec vous et vous devrez donc quitter cette scène terrible. Et vous avez, à ce moment-là, et ça c'est dû à l'empathie que vous avez éprouvée pendant 6 semaines, vous avez l'impression d'abandonner tout le monde. Ce qui est évidemment faux. Mais c'était vraiment ça. J'avais l'impression de les abandonner, c'était quelque chose de terrible. C'était vraiment une déchirure totale. C'est pas évident, en fait, d'être dans une émotion aussi forte et d'en ressortir et d'en sortir pas indemne, en fait.
Denis Ruellan, vous êtes donc le co-auteur du petit livre émotions de journaliste. Vous venez d'entendre le témoignage finalement plein d'émotions aussi de notre collègue et amie Stéphanie Schuller, qui a raconté son expérience en Haïti. Et c'est, voilà, c'est ce qu'elle a souhaité raconter immédiatement quand je lui ai juste dit émotions et journaliste.
Merci de ce témoignage, parce que je pense qu'il est vraiment très proche de ce que nous on a pu avoir aussi comme réponse, même si on n'utilisait pas le mot émotion. Mais les émotions venaient dans les entretiens. Et surtout, ça montre très bien comment les journalistes font le lien immédiat entre ce qu'ils ressentent et ce qu'ils vont pouvoir faire de ce ressenti. Donc il y a une part de doute, il y a une part de honte. Elle a à un moment utilisé le mot. Au-delà du choc de la situation et des séquelles que ça va avoir, il y a cette interrogation, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de cela, de ce que je ressens ? Et il y a une progressive transformation qui a des limites. C'est-à-dire elle sent aussi que le travail d'information ne résoudra pas l'intégralité des problèmes posés par cette catastrophe. Et donc, cette transformation de ce qu'elle a ressenti en information compréhensible, avec une finesse d'analyse qui permet aux auditeurs de comprendre, eh bien, c'est quelque chose qui la poursuivra longtemps, puisque d'une certaine manière, elle aura le sentiment, et elle l'a expliqué, que ça n'a pas tout réussi à tout dire, d'une certaine manière.
C'est l'heure de notre courte pause dans l'atelier des médias. Denis Ruelland, restez avec nous, et vous aussi, chers auditeurs, restez avec nous. Atelier des médias RFI, bienvenue si vous nous rejoignez. Nous sommes cette semaine avec Denis Ruelland, professeur en sciences de l'information et de la communication, co-auteur d'un livre intitulé « Émotions de journaliste » publié aux presses universitaires de Grenoble.
La pluie, la belle amie qui embête l'été. Et ces flaques d'eau sale pour s'habiller debout. Les fausses dents rigolotes du sourire de mémé. De grandes engueulades quand on restait debout. Du vent frais, de l'eau fraîche qu'on arrache du puits. Une chanson d'amour qui nage dans l'encrier. Des rêves de gamins qui débarquent aujourd'hui. Un grand cœur découpé dans un calendrier. Le foot et la sueur, de larges croches aux pieds. La salive qui bout des patates à maman. Ou rosir de gros mots qu'on avait inventés. Et ma vie de Tarzan sur télé noir et blanc. Et c'est pour ça que je vis, c'est pour ça que je ris, c'est pour ça que je crie, c'est pour ça que j'écris.
L'atelier des médias, Ziad Malouf.
Quand j'ai reçu votre livre, je l'ai expliqué, le titre m'a intrigué, l'interrogation m'a plu, et je me suis dit que la meilleure manière d'en parler, c'était d'aller voir des confrères et de leur demander, voilà, quelles sont tes émotions, vos émotions liées à votre métier, ton métier. Et une des premières personnes à laquelle j'ai pensé, c'est un confrère qui s'appelle Pierre Aski, qu'on a croisé avec Simon à plusieurs reprises dans notre vie professionnelle, et qui a la particularité de parler extrêmement bien et de transmettre extrêmement bien ses émotions quand il nous raconte ces histoires de vieux briscards entre guillemets du journalisme. Donc tout naturellement je l'ai appelé quand j'ai reçu votre livre. Il l'avait reçu aussi parce qu'il fait partie d'un jury qui pourrait remettre un prix à ce livre, et je l'ai appelé pour lui demander s'il acceptait de me raconter ce qu'il entend lui par émotion ou ses émotions en tant que journaliste, et il a accepté, merci à lui.
L'émotion est totalement indissociable de ce métier. Je pense que c'en est même un des moteurs. Et en tout cas, moi, c'est pour ça que je l'ai fait. C'est pour aller chercher des émotions. Et il y en a deux, trois comme ça qui me reviennent à l'esprit immédiatement. Il se trouve que je suis arrivé comme jeune correspondant de l'AFP en Afrique du Sud en 1976, pile au moment où Soweto explosait, la première révolte contre l'apartheid qui a ouvert le compte à rebours pour la libération de Mandela des années après. Et c'est vrai que quand on arrive jeune Français dans un pays comme l'Afrique du Sud, en plein cœur de l'apartheid, et qu'on voit les massacres, etc., l'émotion, elle est hyper présente. Moi, la plus grande émotion que j'ai eue en Afrique du Sud, c'est les funérailles de Steve Biko. Steve Biko était un jeune dirigeant de ce qu'on appelait la conscience noire, qui a été tué en détention par des policiers, par des tortures de policiers. Et ces funérailles ont été un moment d'une intensité qui me donne encore des frissons dans le dos quand j'y pense 40 ans après. C'était en 1977. Donc cette émotion, elle est forte, elle est un moteur incroyable. Après, je pense que tout l'exercice, j'irais presque pour employer un grand mot, le professionnalisme, c'est de ne pas se laisser dicter par l'émotion. Et donc de passer de cette émotion à un travail journalistique professionnel. Je pense que ça serait une erreur de n'être que dans la transmission d'émotions, parce que l'émotion, elle peut être trompeuse, elle peut dévoyer le sens d'une information. Et donc, moi, quand je pense à l'Afrique du Sud, je pense à des émotions très fortes qui étaient celles d'un jeune Français face à l'apartheid, et je pense à un travail que j'ai essayé de faire qui était d'abord et avant tout professionnel, même si Il y a une part d'engagement évident dans la manière de couvrir un régime comme l'apartheid. Mais si on continue dans ce registre, j'étais correspondant à Jérusalem au moment des accords d'Oslo. Le retour d'Arafat à Gaza, en terre de Palestine, c'est aussi un moment d'une intensité émotionnelle inimaginable, parce que pour les Palestiniens, voir arriver la police palestinienne qui se déploie avec des armes et voir Yasser Arafat poser le pied sur la terre de Palestine en homme libre, c'était un grand moment. La suite n'a pas tenu ses promesses, mais c'est une autre histoire. Simplement, ce jour-là, il y avait une émotion incroyable qu'on partageait collectivement avec les Palestiniens, quel que soit le sentiment qu'on puisse avoir par rapport à, aux accords d'Oslo ou à la manière dont se règle politiquement ce conflit. Simplement, il y a un moment comme ça d'une intensité émotionnelle très forte, dans laquelle le journaliste, même s'il n'a rien à voir avec les enjeux locaux, etc., ne peut pas être indifférent et surtout ne doit pas être indifférent. Parce que je pense que ressentir cette émotion au plus profond de son cœur et de son corps, c'est aussi une manière de rentrer dans l'événement pour pouvoir mieux encore le rendre à ses lecteurs. Le piège, là encore, c'est de n'être qu'émotion. Donc l'émotion est un élément indispensable à condition d'être accompagné de tout ce qui fait le professionnalisme, c'est-à-dire le recul, la capacité d'analyser, de peut-être aussi, comme on dit par une belle formule, penser contre soi, c'est-à-dire aussi penser contre ses émotions et comprendre que peut-être ce qui est en train de se jouer ou ce qui se joue devant ses yeux n'est pas exactement ce que l'émotion nous dicterait, parce qu'il y a d'autres choses qui se passent derrière qu'on ne voit pas, etc. Donc voilà, l'émotion est un facteur contre lequel, je pense, il ne faut pas lutter, mais qu'il faut canaliser et contrôler.
Alors j'ai posé une question à la suite de ce témoignage à Pierre Aski, qu'on va entendre la question et la réponse par la suite, mais je souhaitais vous faire réagir, Denis Ruelland. Dans votre livre « Émotions de journaliste », vous tentez un néologisme qui est « émotricité », donc qui est un mot qui expliquerait, et puis dont la définition serait un peu ce que vient d'expliquer Pierre Aski, c'est-à-dire que l'émotion, c'est le moteur, en gros, de ce métier.
Oui, c'est un moteur. L'émotricité, c'est à la fois ce qui vous amène, qui vous conduit. Et c'est clair, dans le témoignage de Pierre Aski, il y a ce jeune journaliste. Et la jeunesse est aussi un temps où la recherche des émotions est quelque chose de central. Hein. Donc ce jeune journaliste, il va vers les émotions. Et c'est clair, ça le motive. Hein. Bon. Mais ça ne suffit pas. C'est-à-dire qu'au fond, quand il est sur place, il ressent aussi l'émotion des autres. Il ressent l'émotion des gens qu'il rencontre. Alors, ce sont des émotions collectives, il en parle principalement, mais ça peut être aussi des émotions beaucoup plus individuelles, de gens qu'il rencontre, etc., de choses qu'il vit avec eux, qu'ils sont fortes. Et puis quand il voit tout ça, au fond, il va faire quelque chose de l'émotion. Et il va faire de l'émotion un moyen. Un moyen au sens où ça, il le dit, à la fois il faut savoir prendre de la distance, mais l'émotion elle est bien là. Donc en réalité il va y avoir un travail de transformation, c'est-à-dire que c'est ce que Dewey appelle la valuation, et non pas l'évaluation mais la valuation, c'est-à-dire qu'à partir d'un ressenti émotionnel il va y avoir un travail de décantation qui va permettre de construire de la valeur à partir de ces émotions ressenties.
On retourne aux côtés de Pierre Aski. Une dernière question, j'ai l'impression que dans le journalisme, il y a un côté, voilà, disons, récepteur-émetteur. On reçoit des choses, on reçoit des informations, et puis à notre tour de les transmettre, et puis il y a tout un travail de comment les transmettre, comment les mettre en forme, comment passer ce qu'on a compris, etc. Dans les exemples que tu donnes, est-ce que tu aurais vécu ces événements ou ces choses-là de la même manière si tu n'étais pas journaliste? Est-ce que si tu avais été en Afrique du Sud à ce moment-là, tu aurais vécu ça? Ou est-ce que cette idée que tu vas devoir émettre ce que tu es en train de recevoir, ça te met dans une position où il y a quelque chose d'un peu électrique, il y a peut-être une hormone qui se crée parce qu'il faut à la fois recevoir mais réfléchir en même temps à ce qu'on va devoir émettre, il y a une excitation, voilà. Est-ce que dans des situations similaires, des événements que tu aurais pu vivre, et si tu n'avais pas eu à émettre derrière, tu penses que tu les aurais vécus de la même manière ou pas?
C'est une question très compliquée, parce que Parce qu'elle est, d'abord, elle est purement hypothétique, parce que c'est très difficile de séparer. Enfin, moi, je n'arrive pas à séparer en moi l'homme du journaliste. Et donc, c'est évident que je vis ces événements en sachant que je vais avoir à en rendre compte. Mais par rapport à la force et à l'intensité des événements dont on parle, moi, je sais que chaque fois. Je suis dans un registre qui est celui de la sobriété. Je n'ai pas une écriture lyrique, je fais pas de télévision, donc c'est plus facile aussi. Mais je pense que je suis très en retrait par rapport au niveau d'émotion que j'ai ressenti, parce que je ne veux pas rester sur ce registre de l'émotion. Peut-être que c'est une manière castratrice de faire du journalisme, mais je pense que j'essaye de donner du sens à ses émotions et pas simplement faire passer la ferveur ou l'intensité de ce que j'ai vécu. Donc ce que j'ai vécu et la manière dont je l'ai vécu est relativement dissocié de la manière dont j'en ai rendu compte. Parce que entre-temps, il y a un processus de peut-être d'intellectualisation ou en tout cas de digestion journalistique pour en faire quelque chose qui ait du sens et pas simplement de l'émotion. Alors que peut-être que si j'avais été à la télévision, j'aurais privilégié cette émotion parce que c'est effectivement le registre de l'image et de ce support. Donc voilà, je pense qu'effectivement, il y a une dissociation, il y a un décalage, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vis, entre, mais que j'assume volontairement. C'est-à-dire que je pense qu'il y a ce fossé qui est celui de la mise en perspective, et que ça fait partie de mon travail de faire ça. Alors, c'est très difficile de séquencer et de savoir comment j'aurais vécu ça si je n'avais pas eu à en rendre compte. Je pense que je ne suis pas capable de répondre à cette question.
C'était Pierre Aski. Je ne l'ai pas précisé, mais Pierre Aski a commencé sa carrière à l'AFP. Ensuite, il a été correspondant pour Libération avant de cofonder Rue 89 et de continuer son aventure journalistique. Je vous ai vu donc écouter religieusement tous les témoignages qu'on a diffusés. Il y en a d'autres qui sont des témoignages de jeunes, parce qu'on a souhaité aussi donner la parole à des jeunes, et je sais que vous êtes enseignant au sein de différentes structures de journalisme, donc vous êtes en contact avec les jeunes et ils se posent eux aussi des questions sur les émotions. Mais je vous ai vu réagir à ce que disait Pierre Aski, en particulier au moment où il parle de la télévision, où il dit que la télévision a une grammaire différente, alors je reformule, hein, mais une grammaire différente qui fait que l'utilisation de l'émotion est différente de celle de la presse écrite, et qui plus est quand on travaille pour l'AFP comme lui à ses débuts, où l'AFP c'est vraiment un style extrêmement sobre, et la sobriété, parce que ça va servir à d'autres confrères qui pourront eux ensuite ajouter ce qu'ils veulent ou pas. Donc, voilà. Mais je vous ai vu réagir et dire c'est pas très gentil ce que dit Pierre Aski sur la télévision, parce que la télévision va utiliser l'émotion différemment.
Oui, parce que justement, je pense que nous, on s'est plutôt intéressé à la grammaire et à la fabrication de l'information et pas finalement à son résultat. Et je pense que les journalistes de télévision travaillent exactement de la même manière. C'est-à-dire, y compris en s'intéressant aux présentateurs de télévision, avec Florence Lecam, on a été les lire, mais aussi les écouter, et on s'est aperçu qu'il y avait chez eux des mêmes modulations de l'émotion, avec d'ailleurs une circonstance très particulière, c'est que quand une actualité devient forte, une rédaction entière peut basculer en spécial, et dans ce moment-là, il va y avoir de très fortes intensités émotionnelles qui vont être mobilisées, tout en étant en quelque sorte réfrénées où elles sont en suspension par elles-mêmes. Ce dont témoignent très, très souvent les journalistes, c'est qu'en télévision ou en radio, il va y avoir un moment où l'émotion, elle est partagée, elle est là, latente, mais on n'est pas du tout dominé par cette émotion. Au contraire, elle est comme suspendue, et on va être hyper efficace dans ce contexte-là. Tout est beaucoup plus clair, tout est beaucoup plus radical dans des contextes à forte intensité émotionnelle. Et donc, on va s'en servir pour affronter la contrainte très très forte qui est celle d'enclencher un direct 20 minutes ou une heure après un événement et de tenir ce direct pendant des heures. Donc on va vraiment l'utiliser. Après, que la télévision puisse être parfois apparemment plus utilisatrice d'images choc ou de témoignages émouvants, c'est un procès très ancien. Je veux dire, la presse écrite l'a toujours largement utilisé, ces ficelles-là aussi.
Sans émotion, je vous cite cite, « Le journaliste est aveugle, sourd et donc muet. Ressentir est la condition sine qua non de la pratique, vibrer pour, même si la cause paraît incertaine parfois, voire souvent, tirer satisfaction de son métier, quand bien même il paye mal. Être passionné par le vécu changeant, les situations peu banales, les rencontres, le frisson du risque, et vivre tout cela dans un groupe, dans une communauté professionnelle, voilà ce que les journalistes interrogés ont dit de leur engagement dans ce métier. »
Oui, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les journalistes sont des individus, je dirais, à la fois comme les autres, et comme les autres, on pourrait dire qu'ils vont aller chercher des activités qui sont plutôt génératrices d'un certain intérêt, d'un certain plaisir. Donc, ils vont vers les émotions pour cette raison-là. Mais ils se servent, et je pense que c'est vrai dans tous les métiers, je suis enseignant, quand je rentre dans une salle, ou que je suis en interaction avec un groupe, et qu'à un moment donné ils disent quelque chose qui est intelligent, fin, qu'il se passe quelque chose, il y a de la vibration, il y a de l'émotion, nous partageons cela, et ça rend les choses tout à la fois tellement plus claires et tellement plus utiles, intéressantes, on leur donne absolument un sens. Et ce lien qu'il peut y avoir entre l'émotion et en quelque sorte la raison, c'est un lien qui a été fait en neurosciences. Si une expérience qui date du 19e siècle, où un pauvre homme était tombé sur la tête et avait vu ses capacités à ressentir des émotions disparaître, eh bien, il était totalement désorienté. Pas parce qu'il ne ressentait plus rien, c'est parce que l'absence d'émotions lui interdisait de faire des choix, de décider de quoi que ce soit. Il était dans l'incapacité de raisonner parce qu'il ne ressentait plus.
On va écouter Manon, qui est une jeune journaliste.
Moi, ça intervient quand même assez souvent, je dirais pas quand on tourne un reportage, etc., pas nécessairement, parce qu'il faut quand même les mettre de côté. En tout cas, c'est ce qu'on nous apprend à faire. Souvent, à l'école, on nous dit que le journaliste, il doit être objectif, il doit être neutre, il doit pas laisser, il doit pas être justement trop empathique. Après, moi, je suis pas sûre que ce soit complètement vrai, mais c'est ce qu'on nous apprend. On nous apprend à être très transparent. Mais ce qui va motiver une envie de tourner un reportage sur tel ou tel sujet, oui, là, les émotions peuvent interférer.
Et toi, tu as un souvenir d'émotion en tant que journaliste ?
Ouais, une émotion, pas si simple à décrire, mais une émotion qui était suscitée par le décor dans lequel j'étais quand je suis allée faire un reportage sur un festival de musique dans le désert. Là, j'ai eu une très, très forte émotion. Ben, en fait, c'était la première fois que je faisais un reportage toute seule, à l'étranger. J'étais encore étudiante puisque j'étais en contrat pro. Et ben, quand je suis arrivée dans le désert et que je me suis retrouvée face à ce décor, j'ai eu une espèce d'émotion extrêmement forte où je me suis dit oh, « Waouh, c'est le métier de journaliste qui m'amène ici et c'est juste éblouissant en fait ».
Du coup, comment tu fais pour concilier ce qu'on te demande à l'école, ce qu'on te demande dans ta pratique journalistique pour ton employeur et ce que tu ressens toi ?
Ben, c'est pas facile parce que je pense que quand on est étudiant et qu'on a envie d'être journaliste, on a forcément une image idéalisée du métier de journaliste. On a envie de faire du journaliste noble. On a envie d'être reporter, de changer le monde, d'être la voix de ceux qui n'en ont pas, etc. Et finalement, quand on commence à chercher du travail, on se retrouve que c'est beaucoup plus difficile que ce qu'on imaginait. Et moi, le travail que je fais à l'heure actuelle est complètement à l'opposé de ce que j'ai envie de faire, en fait. C'est-à-dire que je ne fais pas de reportage, je ne rencontre personne, je fais vraiment de l'actu, je bâtonne des dépêches AFP. Ni je comprends le monde, ni je j'essaye de le faire comprendre aux autres. En fait, je relaie simplement ce qui se passe minute après minute.
C'était Manon au micro de Simon de l'Atelier des médias, que je remercie pour ce témoignage. Le désenchantement, c'est pas vraiment une émotion, si on reprend l'acception du terme que vous expliquiez au début de cette émission. C'est plutôt un état. J'ai choisi de vous faire entendre ce témoignage et je remercie aussi Manon au passage. parce que quand j'ai lu cette phrase, sans émotion, le journaliste est aveugle, sourd et donc muet, et j'ai pensé aux jeunes journalistes à qui souvent, aujourd'hui en tout cas, on propose des métiers un peu inodores et incolores.
Oui, et je pense que votre interlocutrice, Manon, exprime vraiment ce désinvestissement qui est lié au fait qu'elle est placée dans un contexte d'activité où les émotions ont disparu. En fait, elle ne risque pas d'en mobiliser. Il n'y en a pas. Enfin, je veux dire. Et donc, et elle aspire, elle le dit, à revenir sur des situations de reportage. Alors, ce qui est tout à fait intéressant, c'est qu'elle a commencé par expliquer que, au fond, à l'imaginer le journalisme comme un caractère missionnaire, c'est-à-dire que c'est un métier qui avait une utilité, qui était pour quelque chose. Et assez rapidement...
C'est assez juste, hein,
oui,
a priori.
Oui, c'est assez juste, mais très souvent, les journalistes qu'on a rencontrés glissaient sur cet élément-là, ne s'attardaient absolument pas sur cela, comme s'ils étaient à court assez rapidement d'arguments. Et ça nous a beaucoup étonnés. Mais on s'est aperçu...
Ils étaient résignés, en fait.
Non, c'est qu'en fait, je pense qu'il y a une certaine distance, une prise de distance entre ce qu'on fait et les effets de ce que l'on fait. Ça, je pense que c'est l'expérience qui amène à construire cette distance. Mais c'est surtout de s'apercevoir qu'au fond, s'il se passe quelque chose, ça n'est pas direct. C'est ce que Manon explique, c'est qu'elle veut retourner en reportage, elle veut retrouver ses dimensions émotionnelles, et par ces dimensions émotionnelle, elle retrouvera à la fois du sens à son métier pour elle-même, mais elle trouvera aussi du sens du journalisme lui-même. C'est-à-dire que le journalisme, dans ces conditions-là, produit du sens. Et du coup, il sert à quelque chose.
Et ce qu'explique aussi Manon, et c'est très intéressant et important, c'est que elle a le sentiment, en tout cas, qu'on lui a appris en la formant que les émotions n'avaient pas de place dans son métier. Et du coup, Simon a également interrogé Mélissa, jeune journaliste qu'on connaît bien dans l'atelier des médias. Donc Simon lui a demandé justement la place que doit avoir l'émotion dans son travail.
On nous inculque cette idée que le journaliste n'a pas à mêler ses émotions à tout ce qu'il raconte. Dans la pratique, c'est plus compliqué. Moi, je pense pas que ce soit très sain de les bloquer, quelque part. Les émotions sont saines à partir du moment où elles transmettent aussi une information à l'auditeur ou au lecteur ou au spectateur. C'est-à-dire que si moi, j'ai été émue par quelque chose que j'ai vu, il faut que je sens le devoir de d'émouvoir aussi une personne. C'est-à-dire que tout n'est pas neutre. On va pas parler des gens qui dorment dans la rue en plein hiver quand il neige, de la même manière qu'on va parler d'une sortie d'un film au cinéma. Donc, il y a cette transmission à faire, parce qu'on est des êtres humains. Après, c'est la manière de le faire. C'est la manière de le dire, de l'évoquer. Je vais pas pleurer pendant que j'écris un micro pour le reportage sur les réfugiés au Liban. Je vais pas pleurer, mais je vais dire qu'effectivement, c'est une situation dure, que c'est pas facile. Et voilà, on le transmet, quoi.
Qu'est-ce que vous pensez de la solution de Mélissa qui finalement dit il faut être transparent et quand on laisse passer ses émotions, il faut qu'elles aient une valeur informative, ce qui est finalement assez logique.
Oui, et c'est la seule raison pour laquelle on laisse transparaître ses émotions. C'est la seule justification et c'est la bonne mesure de leur sens. Les émotions, il faut les mobiliser et il faut les restituer parce qu'au fond, elles ont une capacité à faire comprendre les choses. Et c'est assez étonnant ce que les deux témoignages de jeunes que vous avez ont commencé sur le fait qu'on nous enseigne qu'il faut réfréner les émotions et je pense que ça n'est pas juste. Je pense que ces deux jeunes journalistes ont beaucoup de maturité parce qu'ils ont compris que les formateurs leur disent très exactement...
Vous pensez que c'est pas juste ce qu'elles disent ou que ça n'est pas juste de leur enseigner ça?
Non, c'est pas du tout juste et d'autant plus que les formateurs en réalité leur disent faites ce que je fais, pas ce que je dis. Et pourtant ils disent ça, ils disent ne mobilisez pas leurs émotions. Mais quand ils passent à l'exercice avec les étudiants, il n'arrête pas de les inciter à mobiliser leurs émotions. Alors pourquoi tant de contradictions? Pourquoi les formateurs très souvent disent ben voilà, non, les émotions, il faut laisser à la porte, etc. Alors que dans la réalité des exercices qu'ils font avec les étudiants, ils les amènent à mobiliser leurs émotions. Je crois que c'est lié à l'histoire du journalisme qu'on connaît bien avec Florence Lecam, qui est l'histoire en fait d'un métier qui, comme je vous le disais tout à l'heure, s'est constitué avec l'idée qu'il était capable d'être distancié vis-à-vis de l'événement, et c'était pour ça qu'il arrivait à en rendre compte. Je crois que le temps a évolué, qu'aujourd'hui les organisations de journalistes ont peut-être moins besoin de faire la différence en quelque sorte avec les milieux scientifiques, avec les milieux politiques, etc., pour affirmer qu'au fond l'émotion c'est une compétence professionnelle et pas du tout une tare ou un risque.
Vous avez cité Florence Lecam, Denis Ruellan, qui est donc la co-auteure de votre livre « Émotion de journaliste ». Je ne l'ai pas dit, le sous-titre, et on peut peut-être terminer sur cette idée. C'est peut-être d'ailleurs la conclusion de votre travail, ce sous-titre, c'est « Sel et sens du métier ». Donc, « Émotion de journaliste, sel et sens du métier ».
Le sel, parce que...
J'aurais dit piment, moi, mais oui. Ça marche moins bien.
Peut-être. Mais ça, peut-être, il aurait fallu trouver...
C'est un peu sage, le sel.
Il aurait peut-être fallu trouver le moyen d'un mot qui aurait permis de jouer avec le sens. L'idée, c'est que oui, il y a du sel dans ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'il y a du goût, et l'émotion est sans doute, comme du sel, un rehausseur de goût. C'est évident. Et les émotions, dans toutes les relations sociales, dans toutes les relations humaines, quand elles interviennent, ou quand on va aller les chercher, quand on va aller les mobiliser, eh bien, au fond, ça donne vraiment du sel à la vie. Ça peut être aussi du piment. Mais ce qu'on essaye d'expliquer, c'est que ça ne suffit pas. C'est-à-dire que si on considère les choses à ce niveau-là, on se dit, bon, au fond, les journalistes sont vraiment des gens qui ont seulement envie de ressentir des choses. Ils vont de par le monde où ils sont sur les plateaux de télévision seulement pour s'amuser. Non, il y a réellement une dimension logique construite. Et donc, à la fois, ça produit du sens, mais c'est le sens même du journalisme.
Merci, Denis Ruellan. À bientôt, j'espère.
Au revoir.
http://atelier.rfi.fr
Émotion de journaliste de Denis Ruellan et Florence Lecam est édité par les presses universitaires de Grenoble. L'atelier des médias a été signé cette semaine. Simon de Creuse et Ziad Malouf en coulisses, Mathilde Saliou, Camille Deloche et Léo Caravagna. Pour nous réentendre, c'est bien sûr sur toute bonne application de podcast. Salut à toutes et à tous, à la semaine prochaine.
J'ai suivi beaucoup de chemins, j'ai ouvert de nombreux sentiers.